Radio Réaumur.
Bonjour, nous sommes du lycée Réaumur et Justine nous a aidés à réaliser cette émission. Vous entendrez trois élèves de terminale CAP Auto et Sandrine la documentaliste qui ont réalisé des interviews, des chroniques, choisi la musique et le générique. Ils ont notamment tendu leur micro à une enseignante du lycée. Voici ses réponses.
Madame Calvert, vous êtes enseignante au lycée Réaumur. Pourquoi êtes-vous venue en France et plus particulièrement à Poitiers ?
Nous sommes venus en France parce que ma mère, elle a grandi en Hongrie. En fait, mon papy, il est hongrois. Et elle a eu une double culture en grandissant. Donc, elle a grandi en Angleterre et en Hongrie. Et elle voulait que nous aussi, on ait une double culture. Et on hésitait, enfin, ma mère hésitait entre l'Espagne et la France. Et on a fait un vote et on a voté la France. On est arrivé dans les Deux-Sèvres. Et ma mère a rencontré un monsieur français, qui est devenu maintenant mon beau-père. Et ils ont voulu acheter un bar. Et ils ont trouvé un bar pas loin d'ici, à Vivonne. Et donc voilà, j'ai grandi sur Poitiers.
Pourquoi êtes-vous devenue enseignante?
Eh bien, un peu par hasard, j'ai une très bonne amie à moi qui enseignait l'anglais dans un lycée. Et je ne savais pas quoi faire après la faculté. Et elle m'avait dit, mais essaye, je suis sûre que ça passerait très bien et que tu as l'énergie pour. Donc je me suis lancée, j'ai commencé au collège privé et c'est là que j'ai trouvé un peu cette passion pour ce métier-là.
Comment avez-vous appris à parler français ?
Au début, on ne parlait pas un mot de français. Je suis arrivée dans un collège où il y avait beaucoup d'anglais. Donc on ne parlait pas un mot de français. Et c'est en regardant Choupi à la télé... qu'on a appris avec mes sœurs, on regardait ça en rentrant à l'école, de l'école pendant le soir. Et c'est vraiment avec Choupi qu'on a appris les bases. Et à partir de là, ça s'est développé tout doucement. On n'a pas eu le choix.
Qu'est-ce qui vous manque de votre pays ?
Plein de choses me manquent. Ma famille. Ma famille est restée là-bas. Ici, j'ai ma mère et donc deux sœurs. Sinon, je pense que de façon plus globale, je pense que c'est l'état d'esprit des Anglais qui me manque le plus. Voilà. Pas la nourriture, ça on le sait, mais...
Si vous deviez repartir en Angleterre, que vous manquerait-il de la France ?
C'est une très bonne question. Je pense que... Oh là là, beaucoup de choses. Je pense que la vie en France, parce que je trouve que la vie en France, elle est plus lente dans le sens où on prend plus le temps de vivre avec les bonnes choses. Donc je pense que c'est cet état d'esprit, voilà, c'est ça.
Que pensez-vous du niveau des élèves du lycée Réaumur ?
Le niveau d'anglais des élèves de Réaumur, eh bien, je dirais que ça va. J'avais un peu peur au début, mais j'ai été agréablement surprise par le niveau.
Vous nous avez parlé de l'état d'esprit en Angleterre, pouvez-vous nous expliquer ?
Oui, et donc par état d'esprit chez moi, je voulais entendre que je trouve que les personnes sont plus accessibles et plus ouvertes, et que c'est plus facile d'échanger dans un contexte non propice. Donc dans la rue ou quand on ne connaît pas les personnes, c'est plus facile d'aller vers ces personnes-là.
Merci Aïdan et merci à Madame Calvert. Nous restons dans le thème. Nos jeunes journalistes ont recueilli quelques clichés sur nos amis anglais.
Après avoir fait des recherches sur Internet, nous en avons retenu trois qui nous paraissent les plus réels. Voici la liste. Numéro 1, les Anglais boivent beaucoup de bière et beaucoup de thé. Ils boivent plus de 36 milliards de tasses de thé par an et plus de 46 millions de litres de bière par an. Ils boivent le thé différemment des Français, c'est-à-dire avec du lait ou avec de la crème.
En numéro 2, les Anglais font tout différent des autres pays. Par exemple, ils roulent à gauche avec le volant à droite, ils font pas la bise pour dire bonjour. Ils sont tous fans de la famille royale.
En 3, ils mangent tout et n'importe quoi en grande quantité. Ils commencent leur journée avec un plat copieux et gras. Le fameux English breakfast. Ils mangent beaucoup de pudding, le gâteau compact et conçu à Noël. Merci de nous avoir écoutés.
Merci les garçons. Et maintenant une petite pause musicale. Nous allons écouter Meda de Tiakola.
Attendre, pas faire couler le sang. Attendez, faire doucement. On va les attendre sans menacer. Oh, le sable tombe, recommencer, c'est mort. Y'a que Dieu que j'adore, un seul. selfie et je rigole. Je veux pas être ton idole, mais ton inspiration. Mais sache-le qu'un dernier message, peut t'enlever la vie. Je suis dans Paname, y'a pas de distraction. Fais pas d'histoire, sors. Ici y'a 10 heures, ça vend la baie de Médard. C'est l'heure des gérants. Y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bangers d'un meurtre. Un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre. Oh, besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va céder. On a quitté la table, ils ont fait des enquêtes, on a fait des jaloux. Laisse-moi me taper des barres quand j'entends qu'ils disent l'avenir est à nous. On a vidé des sacs, ils ont vidé leurs poches, on a repris le Glock. Avant d'être une restaurant, avant d'être la mélo, je suis un enfant du bloc. Ici on se promène pas deux fois, écoute bien, on se répète pas deux fois. Sur le terrain j'ai marqué deux fois, au studio je fais plus de devoirs. M'apprends rien, je connais mes devoirs, j'ai tout vu avant de recevoir. Logique, je peux pas vous décevoir. Hey, j'suis dans Paname, y'a pas distraction. Fais pas d'histoire, sors. Ici y'a 10 heures, ça vend la baie de Médard. C'est l'heure des gérants. Y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bangers d'un meurtre. Un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre. Oh, besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va céder. En vie on dort la noche, parfois on est dans le mal, mais y'a que Dieu pour nous sauver. Pas le temps pour les regrets, y'a pas de retour en arrière, le passé c'est le passé.
Elle est venue pour wind up, elle est pas venue. Elle a posé son fontaine, elle avait oublié la date, plein propre, la tête, plein d'espace. Sur une planète, j'te ramène là.
It's not my fault,
oh. Ici y'a 10 ans, ça vend la bête des dents. C'est l'heure des gérants. Y'a des hommes de poing et des fusils d'assaut.
Nous venons d'entendre Tiakola avec Meuda et on continue avec un peu d'actualité avec Faïz.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du ramadan qui a commencé le lundi 11 mars 2024 et qui finit aujourd'hui mardi 9 avril. La question de la date du début du ramadan fait régulièrement l'objet d'une incertitude. Elle est traditionnellement décidée lors d'une observation astronomique après la nouvelle lune. Demain, c'est la fête de l'Aïd, la fête des musulmans marquant la rupture du jeûne du mois de ramadan. Elle commence au coucher de soleil et célébrée tôt le matin, c'est-à-dire le premier jour du mois de Shawwal. Le jour de l'Aïd, les musulmans se lèvent tôt le matin pour se rendre à la mosquée, prier pour commencer leur journée.
Et que va-t-il se passer donc demain ?
Ils vont fêter l'Aïd en famille ou avec des amis.
Et maintenant, une chronique cinéma avec notre journaliste Aïdan.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du film Bob Marley One Love. Le réalisateur du film est Reinaldo Marcus Green. Reinaldo Marcus Green a réalisé d'autres films comme King Richard au-delà du jeu, l'histoire de Joe Bell. L'acteur principal du film est Kingsley Ben Adir. Je vais vous parler du film Bob Marley One Love que j'ai vu au cinéma pendant les vacances de février. Ce film raconte l'histoire de Bob Marley. Bob Marley a survécu à une tentative de meurtre. Il a joué au foot, puis il s'est fait écraser l'orteil. Et à cause de ça, il a eu un cancer de la peau. C'est à cause de ce cancer qu'il est mort à l'âge de 36 ans. Dans le film, on entend l'acteur chanter les chansons de Bob Marley. Très bien d'ailleurs. À la fin du film, on voit des images du Bob Marley. On retrouve le film Bob Marley sur plusieurs sites, comme Paramount+, Canal+, Atlas Pro ou OneTV.
Alors moi, Aidan, je n'ai pas encore vu le film, mais toi, j'espère bien le voir rapidement. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ?
Ce film m'a beaucoup plu et je vous conseille d'aller le voir. Et maintenant, place à Bob Marley avec le titre One Love.
Together and feel alright. You're the children I will feel alright.
Say it.
Let's get together and feel alright.
Whoa, 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 whoa. Let them help us all their dirty remarks.
Wonder.
There is one question I'd really love to ask. Hopeless sinners who has hurt all mankind, just to save his own belief.
One love.
What about a one heart?
One heart.
What about a
let's little? Get together and feel alright.
As it was in the beginning,
one love.
So shall it be in the end.
One heart.
Alright.
Give thanks and praise to the Lord. Get together and feel alright.
One more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon.
One love.
So when the man come, there will be no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah.
One love.
What about the one heart?
One heart.
What about the
let's get together and feel alright.
I'm pleading to mankind.
One love.
One heart.
One heart.
One heart.
Give thanks and praise to the Lord,
and I will
feel alright. Let's get together.
Et voilà, c'était donc le légendaire Bob Marley. Et nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir aussi au lycée Réaumur Maillard Monchipour, 6 fois champion du monde de boxe anglaise. Dorian a recueilli ses propos.
Bonjour Maillard Monchipour, vous êtes franco-iranien et vous êtes un grand boxeur. Pourquoi avez-vous quitté votre pays et comment vous êtes retrouvé à Poitiers ?
Bonjour, donc effectivement, je suis né en Iran. J'ai quitté l'Iran et je suis arrivé en France et à Poitiers en 1986. En Iran, qu'on appelle aujourd'hui officiellement, au niveau international, République islamique d'Iran, il y a eu une révolution en 1979. C'était encore la royauté là-bas, comme par exemple au Maroc, où le Maroc est un vrai royaume où tout le pouvoir est détenu par le roi. Là, c'était la même chose. Il y a eu une révolution avec plusieurs mouvements et ce sont les islamistes qui ont pris le pouvoir. Au sud de l'Iran, il y a un pays qui s'appelle Irak, Iran, N, Irak, Q, où des frontières avaient été dessinées suite à un accord international à l'avantage de l'Iran parce que l'Iran était puissant. Et cette frontière faisait, en fait, il y a beaucoup de pétrole là-bas. Si tu changes de 100 km la frontière, c'est des milliards et des milliards que tu perds ou que tu gagnes. Donc là, après une révolution, un pays étant désorganisé, Saddam Hussein, le président irakien, voulait envahir l'Iran, il nous a attaqués, parce que les Iraniens ont plein de défauts, mais parmi leurs qualités, ils sont patriotes, ce qu'on a perdu en France. Ils sont nationalistes également, mais ils sont patriotes surtout. Donc ils se sont opposés, c'est une guerre qui a duré 8 ans, 8 à 9 ans, il y a eu entre 500 000 à 1 million de morts du côté iranien, c'est énorme. Donc pendant cette guerre-là, mon père a décidé de m'envoyer à l'étranger pour me protéger. Et je suis arrivé à Poitiers parce que sa sœur, ma tante, était poitevine.
Comment avez-vous découvert la boxe ?
La boxe, je l'ai découverte de deux manières. Premièrement, alors on regardait pas de la boxe à la maison, j'ai dû voir quelques petites images de Marvin Hagler, un boxeur américain poids moyen qui en 84 fait un combat de folie donc je crois que c'est les seules les premières images que j'ai vues, c'était ce combat là et je l'ai découvert grâce à un professeur d'EPS, d'éducation physique et sportive au collège Ronsard où j'étais, c'était un professeur monsieur Thibaut Didry qui n'était pas titulaire donc qui changeait au gré des postes vacants ses affectations. Donc, une année, il était chez nous à Ronsard. Il avait fait acheter des gants de boxe. On a eu carrément un cycle de 700, un cycle de boxe. Comment on fait un cycle de handball ou d'athlétisme? J'ai adoré. Voilà. Après, les années se sont passées. Il était hors de question de faire de la boxe dans la famille. Et Thibaut, il a débarqué au lycée Camille Guérin quand j'y étais en terminale. Il habitait aux Couronneries à côté de chez ma tante où j'habitais. Et plusieurs fois, enfin pendant 3 mois, je rentrais 2 ou 3 fois par semaine à deux de moto. Un trajet qui prenait 45 minutes avec les changements de bus, je le faisais en 2-3 minutes et je m'entraînais dans son salon, transformé en dojo, avec des tatamis et tout. On a fait ça 3 mois, et pendant les vacances de Noël, à 3 mois de mes 18 ans, de ma majorité, donc il m'a dit, Maillard, on arrête les bêtises, il faut que tu ailles au club. J'annonce ça à ma tante à la maison, c'était évidemment non. Elle me dit, tu te débrouilles avec ton père, j'appelle papa aux Pays-Bas, il raccroche. C'était non. Mais bon, j'allais avoir 18 ans, donc je commence la boxe à 18 ans moins 3 mois, l'année du bac. Voilà.
Quel est votre palmarès et votre meilleur souvenir de combat?
Palmarès, j'ai fait une très courte carrière, comme j'ai commencé tard, il fallait pas traîner. J'ai fait une courte carrière amateur, de boxe amateur et style olympique. J'ai fait 42 combats pour 7 défaites au début, en début de carrière. Et puis après, quand j'étais en place, j'ai fait 17 victoires d'affilée. Je passe professionnel à 21 ans, à l'âge de 21 ans. Je crois 14 combats professionnels au club de Poitiers. Et puis comme le niveau local, c'est, à un moment donné, il fallait partir, je pars à Blagnac, Toulouse, de 2000 à 2009. Et en tout, donc le plus important, je deviens 2 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe et 6 fois champion du monde.
Quelle est votre principale qualité pour avoir gagné tant de combats?
Alors, pour réussir dans le sport, il y a 3 éléments. La technique, la tactique, la stratégie. Le physique, en fait il y en a un quatrième qui est le plus important, le mental. Moi techniquement, pour atteindre ce niveau-là, il faut pas être bidon, j'étais bon, mais j'avais pas commencé la boxe à 10 ans, il y a plein de trucs que je savais pas faire. Physiquement, j'étais très fort parce que je savais m'entraîner correctement, et mentalement, j'étais un fou. J'étais indestructible sur le ring. Donc mes 2 qualités, c'est qualité physique et mentale.
Que faites-vous maintenant que vous êtes plus boxeur?
Alors quand j'ai fini mes études à Toulouse, en même temps j'étais pendant 1 an et demi agent de développement, c'est-à-dire salarié du comité régional de boxe, l'instance régionale qui gère la discipline. Et ensuite, de 2002 à 2011, pendant en gros 10 ans, j'étais agent de développement. Et après, directeur adjoint des sports au Conseil général de la Vienne. Et depuis 2011, je suis au ministère des Sports, conseiller technique sportif boxe. Je m'occupe de boxe.
Vous menez aujourd'hui d'autres combats dans le domaine des idées. Pouvez-vous nous expliquer?
L'ensemble de ma manière de vivre, de réagir, de faire, est axé sur deux problématiques, deux points importants. Le droit féminin, le droit des femmes, le droit humain, mais le droit des femmes, qui est bafoué partout dans le monde, ailleurs qu'en Europe. Et quelque chose, donc là, c'est pour les autres. Et pour nous, en Europe, en France, et je trouve qu'on se trompe, selon moi. Le devenir, l'intégration, le contrôle également des flux migratoires, des concitoyens venus d'ailleurs. Et quand on vient d'ailleurs, on amène une culture, on amène un bagage avec soi, on amène un physique. Il faut qu'on s'adapte au pays d'accueil. C'est pas au pays d'accueil de changer. Et aujourd'hui, on est dans le contraire. Les gens viennent nombreux parce que c'est l'immigration internationale, pas de boulot, trop de gens, la misère. Et effectivement, c'est le paradis, l'Europe. Hein. Je suis venu d'ailleurs d'un pays riche, mais qui est en guerre. L'Europe, c'est le paradis. Quand on vient avec son bagage, avec sa culture, on s'adapte au pays qui nous accueille et on le change pas. On s'adapte sans s'oublier. Et ça, c'est une magie que peu de gens l'ont compris. Je reviens, je l'ai dit tout à l'heure, je reviens, j'ai parlé de patriotisme des Iraniens. 95% de la culture iranienne, je l'ai jetée dans les toilettes, j'ai tiré la chasse d'eau dessus. Parmi les 5%, il y a la culture d'excellence. On apprend tous à nos enfants, qu'on soit ouvrier ou médecin, bah toi, t'as intérêt à être médecin, ou ingénieur, ou cuisinier, mais un grand cuisinier, parce que l'école est gratuite, donc profites-en. Ça a disparu en France. Le patriotisme, je l'ai dit tout à l'heure. Et le troisième point, quand on va ailleurs, on respecte les gens et le pays qui nous accueille. Et aujourd'hui, dire cette phrase, que j'entendais peut-être autour de vous, c'est devenu un gros mot. C'est terrible. Nous, les Iraniens, quand on va ailleurs, on s'adapte. Et pour toujours exposer cette idée-là, je suis arrivé le vendredi 15 août 1986 à Poitiers. Je suis arrivé à Orly, je prends avec mon oncle qui vient me chercher, on prend le train, on arrive, on débarque dans le quartier des Trois Cités, quartier HLM, on est dans une tour HLM, le vendredi soir. Le samedi passe, le dimanche matin, j'avais un bout de papier et j'avais rien, j'ai appris mes premiers mots dans l'avion, je savais pas parler un mot de français, parce qu'on savait pas que c'était la France ou les États-Unis, ma destination, quelques temps avant. « Bonjour madame, je voudrais une baguette moulée s'il vous plaît. » J'imagine même pas comment je l'ai prononcé. Je suis allé tout seul au bout d'une journée et demie de présence sur le sol français acheter mon pain pour la famille. Eh oui, on s'adapte au pays qui nous accueille. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu un gros mot de le dire.
Merci Maya Manchipour.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Maya Manchipour, merci Dorian. Mais il n'y a pas que la boxe anglaise. Et les jeunes parlent de plus en plus de MMA, et notamment du dernier combat qui a défrayé la chronique. Dorian, notre spécialiste spécial box, nous en dit plus.
Bonjour, je vais vous parler du combat de boxe contre Baki et Cédric Doumbé qui a eu lieu à l'Arena de Paris le 7 mars 2024 à 22h30. Ce combat s'est terminé avec une victoire de Baki. L'arbitre a pris une décision d'arrêter le combat parce qu'il avait une écharpe dans le pied. L'arbitre lui a interdit de continuer le combat. Surprenant qu'une petite écharde puisse arrêter un tel combat. Les deux boxeurs se sont provoqués sur les réseaux sociaux et même en face à face. Par exemple, Doumbé a déclaré qu'il allait envoyer Baki à l'hôpital. Amusant quand on sait maintenant que Doumbé a renoncé à combattre pour une écharde.
Et Dorian, alors maintenant, que va-t-il se passer?
Une revanche devait avoir lieu au mois de juin, j'ai hâte. Et on espère que nous verrons cette fois les trois rondes.
Bah oui, on espère quand même.
Et maintenant, la musique du film Rocky.
C'était donc Eye of the Tiger de The Survivor. Et maintenant, Sandrine, que va-t-il se passer dans cette émission Radio Réaumur ?
Nous restons dans le thème du sport et plus particulièrement des JO avec M. Martin, enseignant au lycée.
Bonjour M. Martin, vous êtes enseignant de mécanique auto au lycée de Réaumur, mais vous êtes aussi un bon tireur à l'arc. Avez-vous déjà fait des compétitions de tir à l'arc ?
Bonjour. Donc, oui, je fais du tir à l'arc depuis une dizaine d'années et les compétitions, c'est pratiquement tous les week-ends où on a les compétitions de qualification pour le championnat de France et puis une à deux fois l'année, quand c'est possible, on participe au championnat de France.
Quelles sont les différentes catégories de tir à l'arc ?
Alors, il y a différents types d'armes et différentes catégories de compétitions. Dans les armes, vous avez les arcs à poulies. Les arcs classiques, c'est l'arme qu'on retrouve pour les Jeux Olympiques, et les arcs nus, moi c'est l'arme que j'ai, ou c'est grosso modo l'arc à l'ancienne. Et après dans les compétitions, il y a les compétitions sur cible, donc moi c'est ce que je fais, avec des cibles qui sont, on tire toujours sur la même cible, et on a ce qu'on appelle les parcours, où on a 24 cibles qui sont à des distances différentes, et en général c'est en extérieur dans les forêts.
Préférez-vous tirer à l'arc en intérieur ou en extérieur et pourquoi ?
Alors, personnellement, je préfère largement tirer en intérieur. On n'a pas la problématique du vent, de la pluie, du froid. Voilà. Après, les compétitions extérieures, il faut les faire quand même, donc j'en fais, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, ma discipline de prédilection, c'est vraiment le tir à l'arc en intérieur, en l'occurrence le 18 mètres.
Quelles sont les règles d'une compétition ?
Alors, les règles, il n'y en a pas beaucoup, hein. On ne doit pas s'approcher trop près des cibles lorsqu'on doit compter nos points. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est de faire un maximum de points. Donc nous, on est sur des cibles qui ont 10 zones. D'accord ? Donc le plus près, le plus au centre, c'est le 10. Le plus éloigné, c'est le 1. On tire 3 flèches. Et sur les compétitions que moi, je fais en intérieur, on fait ce qu'on appelle des volées, donc des tirs de 3 flèches. On en fait 10 pour une première série et on a une deuxième série de 10 flèches, ça veut dire qu'on peut marquer au maximum 600 points.
Comment compte-t-on les points ?
Donc on a des cibles, ce qu'on appelle des blasons, et on tire nos 60 flèches dessus pour compter nos points.
Y aura-t-il des Français aux Jeux Olympiques et ont-ils des chances de gagner ?
Alors oui, il y aura normalement des Français aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Aux Jeux Paralympiques, on sait au jour d'aujourd'hui qu'il y en aura 6 parce que les qualifications sont sorties la semaine dernière. Et entre autres, on a une personne qui est du coin, Julie Choupin, qui est classée, qui est dans les 10 meilleurs mondiaux dans sa catégorie, donc qui peut avoir des chances pour les podiums. Et pour les Jeux Olympiques, les qualifications ne doivent pas être encore finies, mais il y a une grande chance qu'on ait des tireurs comme Lisa Barberin ou Jean-Charles Valadon. Jean-Charles Valadon avait fini deuxième aux Jeux Olympiques de Rio. Voilà. Donc il y a des chances qu'on puisse avoir des podiums.
Comment vous habillez-vous lors d'une compétition ?
Alors il n'y a pas de règles particulières. Normalement on est censé porter les vêtements du club, donc le t-shirt du club, et puis après on a un pantalon, on évite le jean, hein, genre ça peut être le jogging. Moi j'ai des chaussures spéciales pour le tir à l'arc. L'arc venant s'appuyer sur le pied, j'ai une chaussure qui est renforcée, voilà, mais et le bob, toujours le bob pour protéger le soleil de la lumière. Mais sinon, on n'a pas d'habit particulier. Alors, on a quand même des protège-bras pour éviter que la corde vienne nous faire mal au bras, et ce qu'on appelle une palette qui nous permet de tenir la corde avec les doigts, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut faire mal. Mais sinon, on n'a pas d'habit particulier.
Comment est organisée une compétition ?
Alors, une compétition est organisée en deux phases. Il y a en général d'abord la phase de qualification où on va faire nos deux séries de 30 flèches pour marquer un maximum de points. Et après, suivant le nombre de compétiteurs qu'il y a, on va par exemple commencer au 8e de finale où on va organiser des duels. Le premier contre le dernier des qualifications, le deuxième contre l'avant-dernier et ainsi de suite. Pour descendre, donc on fait nos duels. Les duels se déroulent en points, en 7. Donc on tire 3 flèches, celui qui marque le maximum de points marque 2 points et c'est le premier arrivé à 6. D'accord ? Donc les gagnants passent en quart de finale et ainsi de suite jusqu'à la finale. Et c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans les compétitions, c'est les duels.
Merci.
Bonne fin de journée.
En parlant des JO, on va savoir ce qui va se passer dans le département dans les semaines qui viennent.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous dire quelles sont vos fonctions au conseil départemental ?
Bonjour, je m'appelle Marielle Buisson et je suis adjointe au directeur des sports et de la coopération internationale du département de la Vienne.
Quand la flamme olympique va-t-elle traverser notre département ?
Alors, la flamme olympique va traverser le département de la Vienne samedi 25 mai 2024.
Pouvez-vous nous donner le parcours exact de la flamme ?
Oui, alors, la flamme va traverser plusieurs villes du département. Elle commence à Loudun, ensuite elle va aller à Châtellerault, puis elle va se diriger vers Montmorillon et ensuite Poitiers. Et il y a une spécificité, c'est qu'en parallèle de ce parcours, il y a un autre parcours qui va passer par Neuville-de-Poitou, Château-Larcher et Charroux. Et ensuite, la fin de la flamme, elle, tout ça va converger vers l'aréna du Futuroscope, où elle va faire son étape finale avec l'allumage du chaudron devant l'aréna Futuroscope.
Que va-t-il se passer concrètement ces jours-là dans les différentes communes ?
Alors, je ne vais pas pouvoir vous détailler absolument tout ce qui va se passer, mais une chose est sûre, c'est que chaque ville traversée organise des animations sportives, mais pas seulement, ça peut être aussi des animations culturelles, pendant le relais de la flamme. C'est-à-dire que, par exemple, à Loudun, la flamme va arriver le matin, elle va faire son parcours avec des relayeurs, donc il va y avoir des relayeurs qui vont se succéder sur quelques kilomètres, pas beaucoup, hein, 2 ou 3 kilomètres, qui vont faire 200 mètres chacun, qui vont se passer la flamme. Et ça, c'est le parcours de la flamme. Et avant ça, après ça et autour de ça, il va y avoir des animations qui seront réalisées par des associations sportives, des associations culturelles de chaque commune et qui vont permettre au public d'avoir une belle journée de fête, non seulement de voir la flamme passer, mais de pouvoir passer la journée à faire des activités en particulier sportives.
Qui va porter la flamme et peut-on encore s'inscrire ?
Celles et ceux qui vont porter la flamme, on les appelle les relayeurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur toute la France, mais dans le département de la Vienne, je crois qu'ils sont 110, il me semble, sur bien sûr l'ensemble du parcours. J'ai pas tous les noms, et d'ailleurs on ne les connaît pas encore tous parce que c'est l'organisation de Paris 2024 qui décide de qui va porter la flamme. En fait, ce sont des gens qui se sont inscrits, qui se sont portés volontaires sur des plateformes pour s'inscrire, qui ont dit pourquoi ils voulaient porter la flamme, et ils sont acceptés ou ils sont pas acceptés. En général, si leur motivation est importante, ils sont acceptés. Nous, le département de la Vienne, on en a proposé 6, parce qu'on avait cette possibilité-là, et les 6 ont été acceptés, et vous pouvez retrouver leur nom dans la presse maintenant de la Vienne. Il y a notamment Erwin Engapet, qui est donc un joueur de volley international. Il y a une jeune femme pompier de la Vienne. Il y a une jeune fille qui fait partie du conseil départemental des jeunes. Il y a beaucoup d'autres. Il y a Nicolas Vimon-Vicari qui est un athlète en voile, mais paralympique, etc. Donc, on les connaît pas tous, on en connaît un certain nombre. On en saura plus à partir de mi-avril. Mais voilà, ils ont été désignés, proposés et acceptés par l'organisation de Paris 2024.
Est-ce que c'est compliqué d'organiser le passage de la flamme et si oui, pourquoi ?
Oui, c'est compliqué. Alors, c'est moi qui suis en charge de cette organisation au département de la Vienne, là, dans la direction, justement, des sports. Ce qui est compliqué, c'est de gérer la sécurité, notamment parce que la flamme, on nous a donné comme image que la flamme olympique, c'était comme un chef d'État. C'est-à-dire, c'est à peu près au niveau sécurité, comme si c'était Emmanuel Macron qui venait dans le département. C'est extrêmement sécurisé. Donc, il y a cet aspect sécurité à gérer avec la préfecture de la Vienne, avec les forces de police, de gendarmerie, etc. Donc, c'est compliqué parce que le niveau de sécurité est très haut. Et deuxièmement, ce qui est compliqué, c'est de d'organiser tout ça, parce qu'il y a énormément de tâches à accomplir. Il faut prévoir les animations, il faut prévoir, enfin comme dans tout grand événement, que ce soit culturel ou sportif, il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer, changer au fur et à mesure du temps avant d'en arriver à la date, notamment dans le domaine de la sécurité. Mais c'est super intéressant à organiser et on a tous envie de voir le résultat dans moins de 2 mois maintenant.
Merci beaucoup.
Eh bien, merci à nos jeunes journalistes. Merci Aïdan.
Merci à vous.
Merci Dorian.
Merci.
Merci Faïz.
De rien.
Merci, un petit merci aussi à Kalan qui n'est pas là aujourd'hui, et ainsi qu'à toutes les personnes interviewées. Merci aussi à Sandrine.
Merci.
Et un grand merci à Justine et à la radio du LP2I Delta FM. Alors on vous dit à l'année prochaine peut-être. Ce ne sera pas avec les mêmes élèves, car on n'a pas de doute que nos élèves vont avoir le CAP, donc ils ne seront plus avec nous, mais on viendra peut-être avec d'autres. Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée.